Philippe vous présente Alternative, une semaine sur deux, le vendredi à 17h, en alternance avec le samedi à 13h. Il évoquera les pistes différentes qui tentent de résoudre les grands défis de notre époque.
Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer un climatologue dans le cadre de la transition énergétique. Monsieur Jean Jouzel, mondialement reconnu pour ses travaux sur les analyses de la glace. Vice-président du GIEC, je vous le rappelle, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et prix Nobel de la paix en 2007. Il est également un lanceur d'alerte infatigable pour ce qui est des dangers du dérèglement climatique. Et bien maintenant, place à l'entretien avec Monsieur Jouzel. Allô, bonjour Monsieur Jouzel.
Oui.
Vous êtes donc sur Radio Barthas dans l'émission Alternative. Vous êtes géochimiste et climatologue et ça fait longtemps que vous alertez le public sur les risques climatiques au travers des rapports du GIEC. Tout d'abord, quelles en sont les conclusions ?
Bonjour donc et bonjour à vos auditeurs. Alors quels sont le dernier rapport du GIEC a été publié en octobre dernier. Les conclusions sont très claires. La première, c'est que le réchauffement climatique est non seulement sans équivoque, mais également sans précédent. Alors sans précédent, disons au cours du dernier millénaire, il est très marqué ce réchauffement climatique par l'augmentation des températures, mais également par d'autres aspects, par exemple la fonte des glaces, l'élévation du niveau de la mer, qui est même résulte justement de cette fonte des glaces, mais également de l'expansion thermique de l'océan. Il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, donc on a vraiment beaucoup d'éléments pour conclure que le réchauffement est sans équivoque et il est sans précédent, comme le montrent les études, en particulier au cours du dernier millénaire. Les 30 dernières années ont été les 30 années les plus chaudes que l'on ait jamais connues depuis au moins 1000 ans, au moins sur l'hémisphère nord où les données sont suffisantes. Alors ce réchauffement sans équivoque, il est lié, il est dû de façon presque certaine à plus de 95 chances sur 100, pour l'essentiel, au moins pour une grande part, aux activités humaines. Alors ces activités humaines, donc l'attribution de ce réchauffement aux activités humaines est vraiment très très claire. Et ces activités humaines, ce sont essentiellement celles qui conduisent à l'augmentation de l'effet de serre. Alors l'effet de serre, c'est lié, c'est cette propriété qu'ont certains composés, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote, d'autres encore, de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Et en gros, l'augmentation de l'effet de serre se traduit par une augmentation de la quantité de chaleur disponible pour, disons, chauffer le système climatique. Et cette quantité de chaleur a augmenté pratiquement de 1% depuis 200 ans. En premier lieu à travers l'émission de gaz carbonique qui est liée à chaque fois qu'on utilise du charbon, du pétrole, du gaz naturel, mais aussi à la déforestation et un peu aux cimenteries. Le méthane est lui lié par exemple les décharges ou bien les lapins de ruminants, mais aussi les rizières, donc les pratiques agricoles. Et ce sont également les pratiques agricoles que l'on retrouve en partie, au moins pour ce qui concerne le protoxyde d'azote. Voilà, donc je veux simplement dire qu'on a une image très précise de la façon dont les activités humaines modifient la composition de l'atmosphère. Et par exemple, les quantités de gaz carbonique ont augmenté de 40% au cours des 200 dernières années. Le méthane a plus que doublé. Hein, donc ce sont des choses très faciles à mesurer et qui sont sans équivoque là aussi. Alors ce sont ces augmentations alors il y a aussi la pollution qui contrecarre une partie, la pollution au sens trivial du terme, qui contrecarre une partie de ce réchauffement lié à l'augmentation de l'effet de serre, mais on explique de façon tout à fait correcte le réchauffement des 50 dernières années lorsque l'on tient compte à la fois des causes naturelles de changement climatique, par exemple les changements d'activité solaire, l'activité volcanique également, les grands volcans provoquent un refroidissement sur une période assez courte, et bien sûr des causes, de l'augmentation de l'effet de serre et de l'effet des aérosols. Donc quand on regarde vers le futur, maintenant le GIEC s'est penché sur deux types de scénarios, enfin disons il y a beaucoup de scénarios qui ont été étudiés, mais on peut résumer à partir des scénarios extrêmes. Alors je dirais de façon simpliste, le scénario où l'on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors c'est un scénario qui, disons, nous emmènerait à la fin du siècle à des réchauffements en moyenne de 4 degrés en moyenne, même un peu plus par rapport au climat pré-industriel. Et puis ce réchauffement se poursuivrait dans la seconde partie, tout au cours du siècle prochain. Donc le climat est loin d'être stabilisé si on suit ce scénario, disons, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, avec des conséquences très importantes. En fait, tous les voyants sont au rouge, que ce soit l'acidité de l'océan, la perte des récifs coralliens, par exemple, plus d'extrêmes climatiques, d'inondations dans certaines régions, sécheresses dans d'autres, des effets sur la vulnérabilité des pays déjà très vulnérables. Certains pays en voie de développement sont déjà très vulnérables, leur vulnérabilité risque d'être augmentée. L'élévation du niveau de la mer, bien entendu, qui pourrait atteindre jusqu'à 1 mètre dans ce cas-là, et là aussi se poursuivre au cours des prochains siècles. Et si le réchauffement était maintenu pendant des siècles, voire un millénaire, on peut craindre à long terme, non pas à la fin du siècle, mais disons plutôt à l'échelle millénaire, la fonte du Groenland, et ça correspond à une élévation du niveau de la mer de 7 mètres.
Voilà.
Mais aussi les pertes de biodiversité, les problèmes de ressources en eau, il y a aussi des événements, irréversibles, comme la fonte du Groenland, justement, ou bien la fonte du permafrost dans la région polaire. Donc quand on regarde ce climat à 4 degrés, bien vraiment tous les voyants sont au rouge.
Ce que vous nous promettez,
en gros,
là, ça fait peur.
Il faut tout faire pour éviter ce réchauffement, qui résulterait de l'absence complète d'action de lutte contre le réchauffement climatique.
Alors, vous nous promettez de la sécheresse, des étés plus chauds de 4 à 5 degrés, des pluies plus importantes. Mais alors, bon, c'est sûr que ça fait peur, tout cela. Et comment éviter les scénarios de catastrophe?
Alors, effectivement, on a aussi, pour ce qui concerne la France, on a décliné les rapports du GIEC pour ce qui concerne la France. On a, j'ai coordonné un rapport sur les scénarios climatiques au XXIe siècle avec, des collègues de l'Institut Percival Laplace, de Météo France, du CERFAX. Et effectivement, que montre ce rapport, eh bien, c'est que dans ce cas d'un scénario émetteur, la France n'échappera pas au réchauffement climatique. En France également, dans le sud-est de la France, ce sont des étés de 5 degrés plus chauds qui surviendrait dans les 20 dernières années de ce siècle. Donc c'est un climat qu'il faut complètement éviter, des sécheresses à répétition, des vagues de chaleur de plus en plus importantes, des canicules, et aussi des sécheresses surtout dans certaines régions. À l'inverse, l'hiver sur la France, ce sont plus de précipitations, en particulier sur toute la façade atlantique, et là aussi avec des conséquences, comme on a vu l'hiver dernier, qui n'ont rien de très agréable. Donc que faut-il faire pour éviter cela? Eh bien justement, ce sont des pistes que le rapport explore également. Ce qu'il faut faire, c'est en gros tout faire pour limiter le réchauffement climatique, le stabiliser. Et j'adhère tout à fait à l'objectif que s'est fixé, non pas le GIEC, ce n'est pas le GIEC qui se l'est fixé, mais ce sont la Convention climat, c'est-à-dire les décideurs politiques. Tous les pays ont adhéré à cet objectif de prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport au climat pré-industriel. Il faut voir que nous sommes déjà un bon demi-degré au-dessus du climat que nous avions il y a à peu près 200 ans. Donc ça, c'est un réchauffement qui par rapport au climat d'aujourd'hui, du début du XXe siècle, qui ne devrait pas excéder 1,5 degré. Alors pour faire ça, le rapport du GIEC conclut de façon très claire. En fait, le réchauffement à stabilisation est directement proportionnel à la quantité cumulée de gaz carbonique émise depuis le début de l'ère industrielle. En fait, pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il faut limiter l'ensemble des émissions, depuis le début de l'ère pré-industrielle jusqu'à la fin des émissions, parce qu'un jour il faudra arrêter d'émettre du carbone, eh bien il faut les limiter à 2 900 milliards de tonnes de CO2. Pour mémoire, chaque année actuellement, ce sont plutôt 40 milliards de tonnes de gaz carbonique, donc le CO2, c'est le gaz carbonique que nous émettons. Alors les autres gaz à effet de serre ont aussi un effet, mais le méthane, c'est par exemple plus un effet à court terme. Si on regarde la stabilisation, c'est vraiment le gaz carbonique, celui qui est produit à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz naturel, du charbon, du bois également, qui est important. Or, de ces 2900 milliards de tonnes, eh bien, nous avons déjà pratiquement émis 2000. Il ne reste donc que 900 milliards de tonnes de gaz carbonique à émettre si on veut rester en dessous de 2 degrés à long terme. Mmh. Bien sûr, si on se fixe cet objectif, eh bien, ces 900 milliards de tonnes, ça correspond à peu près moins de 25 ans d'émissions au rythme actuel, un peu plus d'une vingtaine d'années au rythme actuel. Donc, ça montre qu'il faut changer très rapidement de mode de développement. Ce qui est intéressant également, si on regarde les réserves, c'est-à-dire ce qui est facilement accessible en termes de combustible conventionnel ou non conventionnel, ce qui est facilement accessible, c'est plutôt autour de 5000 milliards, disons, les réserves, ça correspondrait plutôt à des émissions de 5000 milliards de tonnes de gaz carbonique. C'est-à-dire que si on veut respecter cet objectif de rester en dessous de 2 degrés, de ne pas dépasser 2 degrés, il faut absolument n'utiliser que 20% des réserves de combustibles fossiles, c'est-à-dire ce qui est facilement accessible aux conditions techniques et économiques actuelles. Donc ça montre la nécessité de complètement changer notre système énergétique. Je crois que c'est un des messages très clairs du rapport du GIEC.
Vous avez parlé aussi des hommes politiques, vous qui en côtoyez beaucoup en tant que prix Nobel. Comment expliquez-vous qu'on a parfois le sentiment que rien n'est décidé, que les gouvernants sont parfois irresponsables? Je pense surtout à l'exploitation des gaz de schiste. Et en fait, on a le sentiment aussi qu'il est plus important de sauver les banques plutôt que le climat.
Oui, donc ce sont 2 ou 3 choses. Effectivement, disons que, en tout cas, une des raisons, en dehors de toutes les raisons peut-être de pollution, mais en tout cas, une des raisons pour... Je dirais pour ne pas chercher de nouvelles ressources non conventionnelles de combustibles fossiles, c'est bien sûr que, en gros, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, de toute façon, il faut déjà laisser 80% de ce qu'on a d'accessible, disons en termes de conventionnel et non conventionnel, disons dans le sol, là où il est. Donc ça pose la vraie question de la pertinence d'aller chercher sans fin, soit au fond des océans, soit des endroits où, en particulier des combustibles non conventionnels. Ça pose vraiment cette question vu du point de vue du climatologue. Ça c'est très important. Pour ce qui concerne les hommes politiques, je crois que c'est peut-être un peu facile à nous tous, à chacun d'entre nous, de toujours accuser les hommes politiques. C'est clair que ce problème, c'est aussi un problème pour chacun d'entre nous. Nous émettons des gaz à effet de serre, c'est très clair. Nous en sommes responsables à travers la façon dont nous déplaçons, le domestique. Nous avons chacun à cette part de responsabilité. Et il faut aussi, je crois, bien sûr les entreprises également, mais il faut vraiment... Que au-delà de la responsabilité des politiques, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous qu'il faut admettre. Et je crois qu'une des difficultés des hommes politiques, c'est justement cette difficulté à mettre, sur le dessus de la pile, en priorité, ce problème de lutte contre le réchauffement climatique, parce que on a toujours tendance à dire c'est pas la priorité, on pourra toujours s'en occuper après. C'est justement là où c'est disons complètement faux. Si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, il faut agir tout de suite, en fait. C'est-à-dire il faut déjà diminuer, infléchir les émissions entre 2015 et 2020. Et il n'y a pas eu beaucoup de mesures de prise en ce sens. Et l'espoir d'infléchir les émissions d'ici 2020 est très mince. Donc là, il n'y a pas eu assez de mise en route. Alors, le fait de dire qu'on sauve les banques et pas les... j'ai assez adhéré à l'idée, par exemple, de Pierre Laroutrou dans Nouvelle Donne, qui dit qu'il faut mettre... effectivement, c'est l'argument qui est utilisé, à savoir pourquoi. Il faudrait effectivement un vrai plan Marshall sur le climat, mettre beaucoup d'argent, et c'est aussi un levier de développement très important.
En ce qui concerne le climat, donc il y a un événement très très important pour la France, donc en novembre 2015, c'est la conférence de Paris. Qu'attendez-vous de ce sommet?
Ce qu'on attend, en étant optimiste, c'est des mesures qui nous permettent effectivement, collectivement au niveau planétaire, de commencer à emprunter les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, alors le gaz carbonique, mais aussi les autres gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote, toute cette série de gaz à effet de serre, qui nous permettent d'emprunter une trajectoire qui fait que à long terme, bien, le réchauffement n'excède pas 2 degrés. Mais on en voit bien la difficulté, parce qu'il faudra agir tout de suite d'ici 2020. À horizon 2020, si rien n'est fait, on a 20% en trop d'émissions par rapport à ce qu'il faudrait pour, disons, être en mesure d'emprunter une telle trajectoire. Et puis, après 2020, ce que l'on voit, eh bien, c'est qu'entre, par exemple, entre 2010 et 2050, en fait, il faudrait diviser par 2, voire par 3, les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Donc, on sent bien qu'il faut quitter très rapidement ce mode de développement, disons, construit autour de l'utilisation des combustibles fossiles et aller vers des énergies non émettrices de gaz carbonique, que ce soit évidemment en premier lieu les énergies renouvelables, le nucléaire pour les pays qui, disons, qui l'acceptent. Et puis, bon, on parle aussi, hein, ça je disons, le piégeage et le stockage du gaz carbonique. Hein, je reprends là les conclusions du rapport du GIEC. Et bien sûr, la première chose à faire, c'est aussi et avant tout de l'efficacité énergétique et les économies d'énergie. Donc on retrouve d'ailleurs ces différents leviers d'action dans la loi sur la transition énergétique au niveau français, avec un fort développement du renouvelable qui est en tout cas souhaité et qui est inscrit dans cette loi.
Justement, j'allais vous parler de la loi sur la transition énergétique française. Bon, on sait bien qu'il faut que la sobriété énergétique est le devoir de chacun. Que pensez-vous du projet en deux mots de Ségolène Royal?
Ben j'ai été co-rapporteur de ce projet de loi au titre du Conseil économique, social et environnemental. Je pense vraiment que les objectifs en sont, disons, en tout cas correspondent, j'adhère aux objectifs, hein, les objectifs en particulier celui de diminution division par 4 des émissions de gaz à effet de serre en France entre 1990 et 2050. Bien sûr, quand on parle de division par 2 ou par 3 à l'échelle planétaire, on comprend bien que les pays développés doivent faire mieux. C'est indispensable, et c'est donc dans cet esprit, dans cette dynamique que se place effectivement ce projet de loi dont j'adhère aux objectifs. J'espère que ces objectifs ne seront pas trop édulcorés après le passage. Ils n'ont pas été après le passage devant l'Assemblée, mais maintenant c'est devant le Sénat et ça reviendra dans l'Assemblée. J'espère que ces objectifs resteront bien inscrits dans la loi. Mais comme à chaque fois en France, la difficulté d'une loi, même si elle est ambitieuse, et cette loi est ambitieuse, par exemple, j'apprécie aussi le fait qu'il y ait un chapitre sur l'économie circulaire, c'est très appréciable. Cette loi est ambitieuse, mais cette ambition n'a peu de sens si les mesures qui seront décidées ne se mettent pas tout de suite en route. C'est ça le problème. Le problème souvent des lois en France, c'est qu'elles sont votées, et puis qu'après les décrets prennent beaucoup trop de temps à sortir. Et que la dynamique se perd, et puis il y a aussi tout le problème du financement. Donc je dirais que les objectifs de la loi me conviennent tout à fait, en tout cas à vue du point de vue du climatologue, encore une fois, ils me conviennent tout à fait. Ma crainte, c'est que c'est la mise en œuvre réelle de cette loi. En tout cas, mon espoir, c'est qu'elle soit mise qu'elle soit mise en œuvre de façon rapide et efficace. C'est ça mon souhait, c'est très clair.
Oui. Et d'après vous, quelles seraient les nouvelles formes d'énergie à promouvoir et à utiliser?
Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel d'énergie renouvelable. Il y a aussi, vous le savez très bien, aussi des questions qui se posent quand on regarde au niveau mondial. Le GIEC a fait un rapport sur l'énergie renouvelable, qui montre clairement le potentiel de ces énergies, c'est-à-dire qu'à horizon 2050, on peut espérer, si les investissements étaient dirigés de façon efficace, que la moitié de l'énergie, et là je ne parle pas que de l'électricité, mais aussi de la chaleur, de la mobilité, hein, parce que l'électricité n'est qu'une part de l'énergie, focalisent très souvent trop sur l'électricité. En tout cas, donc, les renouvelables sont au premier plan, mais il y a aussi des problèmes posés par les renouvelables, que ce soit des problèmes d'acceptabilité, d'accès à certains matériaux. Et puis aussi, avant tout, il faut apporter des réponses aux questions posées par le stockage de l'énergie. Alors, dans les renouvelables, les plus, en tout cas au niveau français et même au niveau mondial, bien sûr, il y a l'hydraulique, mais on ne peut pas tellement augmenter le niveau en France, mais le solaire, l'éolien doit jouer un rôle. J'espère aussi, mais ça prendra du temps, que à moyen terme, les énergies marines puissent y contribuer. La géothermie doit aussi être utilisée. Bien sûr, en France, c'est aussi une utilisation optimale de la biomasse. Alors là, il peut y avoir concurrence avec l'alimentaire, mais justement, il faut utiliser de façon optimale la biomasse en termes énergétiques, sans nuire évidemment aux capacités de production agricole du pays.
Et alors, je voudrais terminer sur une note d'espoir tout de même. J'ai lu récemment que la Chine et les États-Unis, qui sont les plus gros pollueurs de la planète, ont décidé de faire un pas dans la transition énergétique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc oui, ce sont là les bonnes nouvelles, c'est-à-dire que il y a eu un certain enthousiasme qui s'est mis en place vis-à-vis de la conférence de Paris que nous avons évoquée, donc qui sera la fin de l'année prochaine, avec ses objectifs très ambitieux si on veut rester en dessous de 2 degrés. Et les États-Unis se sont engagés, la Chine et puis aussi l'Europe, avec une diminution de 40%. Disons que Chine, Europe, États-Unis, ça représente à peu près un peu plus de la moitié des émissions. Donc c'est important, mais il faut aussi penser à l'autre moitié, des pays comme l'Inde, dont les émissions augmentent, beaucoup de pays émergents, des pays aussi qui ne font pas grand-chose actuellement, la Russie, le Canada, l'Australie, le Japon. Donc il n'y a pas de véritable engagement. On attend effectivement les contributions, c'est ça, les décisions de Lima, on attend les décisions de ces pays pour le mois de mars, si possible, et puis peut-être un peu plus tard pour ceux qui ne sont pas prêts au mois de mars. Mais c'est très important d'avoir les contributions des autres pays, de l'ensemble des pays, mais aussi probablement de relever l'ambition, y compris pour ce qui concerne la Chine, l'Europe et les États-Unis. Il est très probable qu'une fois que toutes les contributions seront mises sur la table, y compris dans les pays qui n'ont pas encore fait leur annonce, eh bien on ne soit pas assez ambitieux par rapport à l'objectif de 2 degrés. Donc là, la question se posera, que fait-on, surtout si, je le redis, il y a cette urgence pour les 5 prochaines années. Et comme souvent, on parle plutôt dans ces projets de ce qu'on fera après 2020 que ce qu'on fera entre maintenant et 2020. Et c'est aussi très important ce qu'on va faire au cours des toutes prochaines années, parce qu'il y a vraiment urgence.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Jouzel, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Vous étiez sur Radio Barthas et j'espère que cet entretien aura contribué à sensibiliser nos auditeurs.
Merci à vous et puis merci à vos auditeurs. Merci beaucoup.
Au revoir, monsieur.
Au revoir. Merci.
Après cet entretien, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été averti.
C'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Puisqu'on te le dit. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à te répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit. Un câble, ça peut casser, et par accident, une voiture peut déraper. Pas au central, c'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Puisqu'on te le dit. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à te répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit. tunnel peut s'effondrer, une piste s'écrouler. Un ingénieur mal calculé. Un pétrolier peut s'échouer, une plateforme polluée. Et goudronner un océan. Le Titanic a coulé, le Tupolev est tombé. Et le Zeppelin a brûlé. Oui, mais les centrales, c'est la technologie idéale. C'est la sécurité optimale. C'est l'infaillibilité totale. Puisqu'on te le dit, 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 puisqu'on te le dit. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à te répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit.
C'est terminé pour aujourd'hui. Bon, vous avez, comme toujours, la possibilité d'écouter l'émission sur le www.radiobartas.net. Salut!